On y va tous, au Sheol. Le Sheol, c'est un mot hébreu qui désigne la tombe commune de l'humanité. C'est situé, puisque peut-être vous aimeriez savoir, au milieu des colonnes de la Terre qui sont plantées au milieu de l'océan. Enfin, du moins d'après la représentation du cosmos dans le Proche-Orient ancien. Mais qu'importe, c'est là où tout le monde va. Ce n'est pas très gai. Enfin, je veux dire comme endroit, pas forcément comme début de prédication de Pâques, bien sûr. D'après l'Ecclésiaste, qui est un livre de sagesse biblique, on s'y ennuie. Il n'y a rien à faire, à connaître, à projeter ou à croire. C'est le pays de l'oubli. On y est non seulement oublié, mais aussi on y oublie. Un des écrivains des psaumes, un psalmiste, dit: Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Tout le monde y va. Les justes comme les injustes, dit aussi la Bible. Et certains appellent ça une justice, ce qui est discutable. Si tout le monde est condamné à la même peine, à quoi sert-il de faire des efforts de moralité, de sagesse ou de bonté? Vieille question, que l'injuste qui ricane, qui pille, tue, abuse, exploite par métier, par vocation, une question qu'il ne se pose pas. Tout ça jusqu'au retour à la poussière, dit aussi la Bible. Certains, de façon extra-biblique, appellent ça poussière d'étoiles, mais bibliquement, c'est juste de la poussière de la terre. Certains, comme Job, qui est le personnage principal d'un livre biblique, lui aussi de sagesse, qui s'appelle Job, certains, comme Job, malgré le dramatique ennui qui caractérise cet endroit, malgré l'oubli qui est sa matrice, trouvent le Sheol, comment dire, désirable, du moins par rapport à la vie humaine en général, mais aussi à sa propre vie, à Job. Chapitre 3, je vous lis ça. Pourquoi, dit Job, ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des seins pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. Avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Ou je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumise à son maître. Enfin. Alors certes, plus aucune liberté ou pas même de fraternité, mais une très belle égalité. Oui, les anciens hébreux ne croyaient pas à la vie réelle après la mort. Cette croyance serait venue par l'intermédiaire des Égyptiens, elle serait passée par les pharisiens qui ont été sensibles à ça. Eux qui utilisaient, les pharisiens, une liste de livres bibliques qui ressemble un peu à la nôtre, qui incluait des prophètes récents, dont Daniel. Je cite: Beaucoup de ceux, dit Daniel, qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront. On dira donc que Yahvé, devenu théologiquement à la fois tout-puissant à ce moment-là, et puis aussi seul, comme Dieu, est devenu capable, finalement, d'aller visiter ce Sheol où personne n'allait et d'y relever les justes qui dormaient. Ça n'est donc fini de toute cette poésie du spleen et de l'ennui. Les pharisiens et Jésus partageaient cette croyance à la résurrection des corps. Mais ceux qu'on appelait les sadducéens, qui étaient les prêtres du temple de Jérusalem, continuaient à ne pas succomber à cette croyance. Eux, ils n'utilisaient que ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, où justement, il n'est aucunement question d'être relevé d'entre les morts. Ces prêtres du temple étaient les vestiges d'un temps où, oui, on pouvait avoir la foi sans croire à une vie après la vie. Combien de fois ai-je entendu dans mon travail des gens qui m'expliquaient qu'ils ne croyaient pas en Dieu parce qu'ils n'avaient pas besoin d'une vie après la mort? Contrairement à toi, petit croyant ridicule, qui a besoin d'une assurance vie éternelle. Et mon métier est donc de répliquer qu'à part quelques prophètes, des grands prophètes néanmoins, mais à part eux, personne n'y croit dans l'Ancien Testament, ou presque, qui a pourtant fourni ce livre les plus grandes figures de croyants de tous les temps, Abraham, Moïse, etc. Et vous, vous y croyez, me rétorque-t-il? On m'a encore posé la question cette semaine. Et ça tombe bien puisque c'était la semaine sainte et qu'il y est louable dans cette semaine de poser ou de se poser ce genre de questions plutôt que d'affirmer, comme l'a fait hier un journaliste, hier samedi donc, hier un journaliste de France Culture à 9h du matin, il a dit, en théorie, la star du week-end de Pâques, c'est le chocolat. Il précise bien en théorie, du coup on va dire que en pratique c'est Jésus. Bref, passons. Ce texte de Marc, que vous avez entendu, tombe bien, car il fournit un cadre inattendu de réponse à la question d'être un pharisien ou d'être un sadducéen et autour de la problématique de l'assurance vie. Venons-en donc à nos femmes du jour, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé. Des femmes, oui, qui s'occupent de l'humain quand il arrive, prend sa première inspiration, et on lui espère à cet petit humain beaucoup d'autres inspirations, et des femmes, oui, qui, à cette époque, s'occupent aussi de l'humain après qu'il a poussé sa dernière expiration. De bon matin, ce n'est pas vers le Shéol général qu'elles se dirigent, ces femmes, mais vers un tombeau particulier, celui que Joseph d'Arimathée avait acheté, comme on le lit au chapitre précédent de Marc. Verset 46. Ayant acheté un linceul, il le descendit, l'enveloppa dans le linceul, donc Jésus, le déposa dans un tombeau qui avait été taillé dans le roc, et il roula une pierre à l'entrée du tombeau. La pierre est roulée. On va dire déroulée. Elles entrent et voient un jeune homme. Elles ont peur. Ce serait la conclusion de l'évangile de Marc, qui est, je vous le rappelle, le plus ancien des évangiles, celui sur lequel se sont appuyés les autres évangiles pour construire le leur, avec d'autres sources, mais Marc est une des sources principales. Elles entrent, elles voient un jeune homme et elles ont peur, fin de l'évangile. Mais de quoi ont-elles peur? Quelqu'un leur parle, leur donne des informations, mais quel rôle joue-t-il? Joue-t-il le rôle d'un ange? Marc ne le dit pas. Il aurait pu le dire, comme font les autres évangiles. Mais il dit jeune homme, pas un homme jeune, comme était Jésus, mais un jeune homme. Un jeune homme, des femmes. On dirait ce jour-là que tous ceux qui comptent, les vrais disciples, les vrais hommes et aussi les hommes vieux, ne sont pas là. On dirait que tout ce monde présumé important a disparu. Et si on était morte? Et si c'était ça la mort? Cela expliquerait pourquoi le tombeau est vide. Quand on est mort, forcément, les tombeaux sont vides puisqu'on est de l'autre côté. Peur de quoi? Peur de s'être retrouvé de l'autre côté sans même s'en être aperçu? Elles vivent un moment complètement décalé. Un moment où tout ce qui était important avant est maintenant devenu des ombres. Tout ça n'existe plus. Elles étaient des disciples. Des disciples cachés, évidemment, anonymisés presque, car elles étaient des femmes. Et elles ont changé de nature. Elles sont devenues, à ce moment-là, des disciples, non plus des paroles et des actions de leur rabbi et les suiveuses des disciples mâles, mais les premières apôtres de la bonne nouvelle du tombeau vide. Si ce jeune homme n'était pas un ange, elles sont devenues des anges, littéralement, des messagères, les premières messagères de l'évangile vivant. Il n'y avait rien. Elles n'ont rien vu. Le tombeau qui est vide. Des questions se posent. L'a-t-on enlevé du tombeau? Et s'il n'était pas mort sur la croix? Et s'il avait fait semblant? Et si, et si? Mais si les questions se posent, elles se posent sur rien, vous savez, comme un personnage de cartoon qui réalise trop tard qu'il est posé sur rien et qui tombe. Car l'évangile commence à courir. La mort n'a pas eu le dernier mot, car le dernier mot, c'est la peur. La peur de quoi? De ce qui naît. L'évangile commence à courir. Ces femmes croient à la vie après la mort parce qu'après, elles y sont. Vous vouliez une réponse à la question de la vie après la mort? Relisez Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. La bonne nouvelle de Dieu, malgré tous les efforts de tout le monde, n'a pas été enterrée très longtemps. Ensuite, vous pouvez vous poser, comme ces femmes avant qu'elles ne basculent, cette question. Qui nous roulera la pierre? Encore une pierre? Celle-ci n'avait-elle pas été déjà roulée? Non, non, pas celle-ci, pas celle du texte, mais la pierre qui obstrue encore nos tombeaux, les tombeaux de nos espérances ou même nos micro-espoirs, la pierre qui obstrue un avenir quelconque, la pierre qui enferme, par exemple, l'Église du Christ dans une définition d'elle-même à laquelle de moins en moins de gens adhèrent, contrairement au premier temps du monde d'après de l'époque. Vous vous souvenez de ce texte qui est dans notre liturgie d'aujourd'hui, dans Actes? La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et aussi, qui roulera la pierre du tombeau où nous nous sommes nous-mêmes enterrés? Déjà, en fait, précocement, enterrés dans une attitude, une fonction, un caractère, une ligne de conduite, et même une expression du visage jamais remise en question. Cette pierre qui condamne toute ouverture à un changement, qui nous la roulera? Mais c'est la bonne question justement. Qui nous la roulera? Et non pas on n'y rêvera jamais. Oui, qui nous la roulera? Peut-être qu'à Pâques, c'est le moment de nous la poser, cette question positive. Qui sera capable d'ouvrir ce tombeau pour en libérer ce qui n'y aurait jamais dû être déposé, comme notre espérance, notre joie, notre envie de vivre, notre humour, notre fantaisie, notre imagination, notre force, notre reconnaissance pour cette extraordinaire expérience que constitue le fait même de vivre, notre amour, notre confiance. Qui? Ce mot? C'est une prière à un inconnu peut-être, mais avec de l'espoir, qui nous roulera, parce qu'elle sera roulée, cette pierre tombale. Il y a sûrement quelqu'un qui va finir par l'entendre, cette prière, cette question, ce qui va rouler cette damnée pierre pour que de ce tombeau soit délivré tout ce que nous y avons prématurément enterré. Amen.